Accident de Charles Ferdinand Ramu. Elle écoute. Tout était silencieux dans la maison. D'ordinaire, il était toujours levé avant 5 heures. On entendait alors à travers la mince cloison de mélèze le lit craquer et Anselme qui se levait, posant l'un après l'autre ses pieds nus sur le plancher, puis qu'il enfilait ses souliers pour aller traire, lourds, massifs, garnis de clous. On les entendait ensuite traîner sur les grosses pierres plates, servant de pavés sous la fenêtre. Aujourd'hui, rien. On était en novembre. Il faisait encore tout à fait nuit. Thérèse frotte une allumette et regarde l'heure à sa montre, posée sur la table de nuit à portée de sa main. 5h30, qu'est-ce qu'il fait ? Elle se lève. Ils habitaient deux chambres voisines, mais qui ne communiquaient pas. Il fallait passer par le corridor. C'est en bois, nos maisons. C'est comme des boîtes à musique. Il doit pourtant m'entendre, se disait-elle. Cependant, arrivée devant la porte de la chambre de son mari, elle a vu que tout était obscur encore à l'intérieur, sans quoi la lumière aurait fait des lignes verticales entre les planches mal assemblées. Elle est entrée tout droit, il n'a pas bougé, il dort. Elle appelle « Hé, Anselme !» On ne répond pas. Elle a tourné le commutateur parce que, jusque dans les plus pauvres villages de la montagne, ils ont à présent la lumière électrique, à cause de l'eau abondante et des barrages qu'on a construits. « Anselme !» Elle le voit, elle s'approche du lit. Il ne s'est pas réveillé. Elle le secoue, il a ouvert les yeux, mais il est tout drôle, car il n'a pas ouvert les yeux également et en même temps, mais le droit plus que le gauche qui reste à moitié fermé. « Anselme !» Elle l'appelle, il s'est rendormi. Mais est-ce qu'il s'est vraiment rendormi ? Il a soulevé un peu la tête, puis il la laisse retomber de côté et ses yeux se referment. « Anselme, qu'est-ce que tu as ? Anselme, c'est moi, Thérèse, ta femme !» Et elle lui a dit « Est-ce que tu ne me reconnais pas ?» parce qu'un pressentiment lui est venu. « Anselme, réponds !» Il grogne quelque chose, on ne comprend pas ce qu'il dit. Les mots qu'il profère restent pris les uns dans les autres. Il essaie vainement de les séparer avec ses lèvres trop grosses et enflées, qui sont déviées sur la gauche. « Anselme, c'est l'heure de traire !» Il essaie encore de se soulever. Il fait un mouvement avec la tête, voulant dire « Je ne peux pas ». Puis il retombe à son sommeil, mais qui est quelque chose de plus que du sommeil. Elle lui parle comme à travers une épaisseur d'eau, sous laquelle il est étendu et que le regard traverse, mais qui arrête ce que la voix énonce, si bien qu'il ne sert à rien de parler, comme elle voit. Elle est seule dans cette chambre, elle perd la tête. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Elle a couru dehors, heureusement que la maison de sa sœur n'est pas loin. Il y a une maison de bois dans le bas de la pente, qui est la sienne, et un peu plus haut, dans le milieu de la pente, il y a une autre maison de bois qui est éclairée, tandis que Thérèse active sur le chemin, se tenant, pour ne pas le manquer, à la barrière. Elle appelle. Arrivée un peu en dessous de la maison de sa sœur, elle appelle de loin dans la nuit « Catherine !» et appelle de nouveau plus fort « Catherine !» Sa sœur est alors apparue, faisant une forme noire qui se découpe dans le rectangle rouge de la porte qu'on a ouverte. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« C'est un malheur, il te faut venir. »« Où ça ? Chez nous. Pourquoi faire ? C'est Anselme qui a pris du mal. » Les deux femmes redescendent ensemble. Anselme dort toujours. Anselme est toujours sur son lit. Mais elles sont deux maintenant pour le réveiller. Elles parlent entre elles, elles font du bruit, elles l'ont secoué, elles l'interrogent. Il a ouvert de nouveau très bizarrement les yeux. Il a un regard égaré qui cherche à se poser sur vous, mais n'y réussit pas et trébuche. Cependant qu'elles sont deux maintenant à lui demander ce qu'il a. Il a dit difficilement « Je sais pas. La main ?» Catherine demande à sa sœur « Tu comprends ce qu'il dit ?»« C'est à la main qu'il dit qu'il a mal. Il ne s'est pourtant rien fait à la main. » Mais comme la main n'est pas une partie du corps aussi importante que le cœur ou l'estomac, ou le ventre, et qu'une maladie qui s'y met ne doit pas être bien grave, elle se rassure pour l'instant. Et Thérèse, l'ennui, c'est seulement qu'il ne pourra pas traire. Est-ce que tu pourrais m'envoyer Firmin ? Firmin est le fils aîné de Catherine, un grand garçon de 22 ans, qui s'est mis tout de suite à soigner le bétail, 3 vaches et 2 chèvres. Ainsi a commencé le premier jour de cette drôle de maladie. Catherine avait dit à sa sœur, « Le médecin doit venir pour le petit de Josette Coudurier, qui a le croup. Veux-tu que je te l'envoie ?»« Bien sûr !» quoique je ne croie pas que ce soit rien de bien méchant. Enfin, on aura à quoi s'en tenir. » Elle n'aurait pas fait venir le médecin pour si peu. Les médecins coûtent bien trop cher. Les médecins habitent loin dans des villes. Ils ont 2 ou 3 heures de route à faire. Ils ne peuvent même pas toujours se servir de leur auto ou de leur motocyclette sur ces mauvais chemins de montagne, pleins de pierres roulantes et raides. C'est chaque fois pour eux une demi-journée de perdu, de sorte qu'on s'arrange à ne les faire venir que quand il y a dans le village plusieurs malades. On se partage les frais. Chacun paie sa part. Il se passe maintes fois qu'avec cette façon de faire, le médecin arrive trop tard. Par bonheur, Anselme n'allait pas trop mal quand le médecin est arrivé. Anselme s'est soulevé dans son lit. Il a grogné quelque chose. Il disait difficilement « C'est la main qui ne va pas. Essayez de lever le bras. » On a vu Anselme faire un mouvement en demi-cercle, dressant avec effort le bras au-dessus de sa tête, tandis qu'il lui semblait avoir au bout du bras quelque chose d'énorme et de mou, un poids pareil à celui d'une grosse boule de pâte. Et qu'en même temps, il considérait sa main avec surprise et la voyait toute petite, quoique enflée. « Essayez de faire se rejoindre les doigts et le pouce. » Anselme n'a pas pu. « Essayez de siffler. » Anselme a fait une drôle de grimace, s'efforçant vainement de rassembler dans leur milieu ses lèvres gonflées et tordues. Le médecin a écrit quelque chose sur une feuille de son calepin. Thérèse l'avait rejoint dans la cuisine. « Qu'est-ce que c'est? C'est rien de grave. » « Un coup de sang. » « Où ça ? Dans la tête. » « Mais c'est sa main qui ne va pas. » « Ça vient quand même du cerveau. C'est le cerveau qui commande à la main. » Puis le médecin a dit « Est-ce qu'il fume ? Il faut lui cacher sa pipe. Est-ce qu'il boit ? Cachez-lui son vin. » Il disait « Et puis, il faut qu'il reste bien tranquille. Pas de bruit. Évitez les contrariétés. » « Ce sera long ?» Le médecin haussa les épaules. « On ne sait jamais avec ces cas-là. Il va probablement se remettre tout seul, mais ça risque d'être long. En attendant, tenez-le au chaud. » Anselme, pendant ce temps, remet une langue épaisse qui lui remplissait la bouche d'une espèce de bouillie et qui l'empêchait de parler. Thérèse avait mis sur le feu une marmite pleine d'eau, et quand elle eut bouilli avec précaution, goutte à goutte, de peur de faire sauter le verre, en a rempli des litres à vin et les bouchait soigneusement, les tenant dans son tablier. Puis, comme Anselme appelait, elle est entrée dans la chambre, a soulevé les couvertures, et elle glissait une des bouteilles sous les pieds de son mari. Elle logeait l'autre contre sa hanche. Alors Anselme avait senti une bonne source de chaleur être à l'extrémité de sa personne, sous le plumier à carreaux rouges et blancs, dans le grand lit de noyer à 2 places, où il avait couché 30 ans avec sa femme. Et, comme la nuit venait, il était tombé dans une nouvelle espèce d'épaisseur de sommeil, où il s'agitait, gémissant, mais enfin la nuit s'est passée. Au matin, il poussa des cris quand il vit sa femme entrer dans la chambre. Il s'exclamait, il lui souhaitait le bonjour d'une voix trop haute et changée. Il disait, en poussant des cris, « Ah, tu es là, tu es une bonne femme, tu me soignes, tu es gentille, tu vas me tirer d'affaire. Dis donc, qu'est-ce que j'ai eu? Dis, Thérèse, je ne me souviens pas très bien. » On allait et venait dans la maison et devant la maison, mais il ne semblait pas se rendre compte de ce qui se passait, et ne s'en préoccupait guère, ne sortant de ses nuages que pour se jeter tout à coup dans ses exclamations et ses imprécations. Il était devenu extrêmement irritable. Thérèse lui disait « T'inquiète pas, Firmin est là, il se charge de gouverner. »« Firmin, disait-il, je veux pas. »« Pourquoi ? C'est un gamin, il ne sait pas s'y prendre. » Et maintenant, étant revenu à un peu plus de lucidité, on le voyait qui guettait le pas de Firmin sous sa fenêtre, disant à sa femme « Arrive !» puis criant « Surveille-le !» puis toujours criant « As-tu le carnet du lait? Dépêche-toi de me l'apporter !» S'agitant dans son lit avec des phrases qu'il n'achevait pas et des mots mal prononcés qui n'avaient guère de suite, on lui avait apporté le carnet. Il l'a ouvert, contre ses genoux relevés, l'appuyant à la couverture. Puis son doigt s'est mis à aller de haut en bas de la colonne de chiffres qui est logée sur le côté de la page, entre 2 traits rouges, faisant une affreuse contraction avec sa bouche et son nez. « 2 et 3, 3 et 4, ça fait combien ?» Il criait « Je sais plus compter !» Il entrait alors dans de longues méditations, d'où il sortait en donnant des coups sur le plancher avec sa canne qu'il s'était fait apporter. « Arrive, donne-moi mon portefeuille !» Et puis, disait-il, fous le camp, ferme bien la porte, entends-tu? S'étant mis à sortir de son portefeuille des billets qu'il ne dépliait qu'à grand-peine et qu'il ne comptait qu'avec plus de peine encore, tantôt en les feuilletant comme un livre, tantôt en les dépliant tout grand sur le lit, mais le comte n'était jamais le même. Bien qu'il s'y employât de toutes ses forces, jusqu'à se mettre en sueur, mais comme il disait, « Je sais plus compter, est-ce que 9 vient avant 12 ? Et ces chiffres qui ne veulent pas tenir en place, qui vous bougent sous le nez comme des mouches, saloperie !» Cognant de toutes ses forces sur le plancher, sa femme accourut, lui la menaçant du poing, « Tu fais attention à ce gamin !» Car il s'imaginait ruiné, et l'imaginant, il était ruiné. Il ne distinguait plus entre ses imaginations et la réalité même. Il était ce qu'il croyait être. « On va bientôt être obligé d'aller mendier, » disait-il à sa femme. « J'ai plus rien. » Et faisant allusion à Firmin, « Et comme je t'ai dit, fais attention à ce gamin. Il nous vole. »«
Tu es fou, » disait Thérèse.
Mais il recommençait à se démener et à gesticuler, ce qui le jetait à la longue dans de profonds abattements, ou alors il tournait la tête vers la fenêtre, contemplant cette couleur grise dont elle était toute revêtue. C'était comme si on avait découpé des feuilles de carton qu'on avait appliquées derrière les croisées, dont elles remplissaient exactement le cadre, faisant 4 rectangles gris, divisés en beaucoup de carrés par des croisillons. C'est l'hiver, à la montagne. Tout est noir. On cherche en vain les forêts, les rocs et les glaciers, qui étaient devant vous, entièrement offerts aux yeux, ils ont disparu. Il n'y a que des nuages qui pendent autour des sommets, et les jours se succèdent parfaitement pareils, de sorte qu'à la longue, ils n'en font plus qu'un seul, qui semble interminable. On avait permis à Anselme de se lever. Il allait s'asseoir dans un vieux fauteuil dépaillé qu'on avait poussé près de la fenêtre. Il avait les mains croisées sur le corbin de sa canne. Il regardait à travers les fenêtres. Il neigeait. On voyait les flocons descendre lentement, dans le gris, vers vous. Vus à contre-jour, ils étaient noirs, on aurait dit de la cendre, comme dans un incendie. Et puis, quand on abaissait les yeux, on s'apercevait qu'ils devenaient blancs en touchant le sol, où, un à un superposés, ils finissaient par faire une couche éclatante, laquelle vous envoyait d'en bas un jour dur et méchant, rabattu par les nuées, qui éclairait seulement le plafond de la chambre, laissant dans l'ombre les coins et le plancher. Anselme fermait les yeux, et puis il disait « Saleté !»«
Qu'est-ce qu'il y a ?
C'est cette neige, tire-moi de là !» Thérèse déplaçait le fauteuil où il y a un pauvre vieil homme assis, sa canne entre les jambes, qui se passe de temps en temps la main sur la joue et recommence « Saleté, c'est cette barbe qui repousse !» Il avait bien essayé de se raser, ayant suspendu son petit miroir rond à encadrement de fer blanc au montant de la fenêtre, et, s'étant tenu là, s'efforçait de tendre la peau de son menton avec sa main malade. Il n'y avait pas réussi, il n'avait point de force, la peau lui avait glissé sous les doigts. Il était parti à l'aventure avec sa lame parmi la mousse de savon et ses rides qu'il n'arrivait plus à aplanir, se faisant plus de coupures qu'il n'avait supprimées de barbe. Il s'était retrouvé assis dans son fauteuil. Il grognonnait des choses sous sa moustache qui s'était allongée et pendait au coin de ses lèvres. Puis cherchait à deviner, au bruit que faisait sa femme, dans quel endroit de la maison elle devait être occupée. Alors il se levait lentement, difficilement, tandis qu'on entendait craquer ses articulations. Il se glissait avec le moins de bruit possible dans la cuisine, où il savait qu'elle lui avait caché son tabac dans le tiroir de la table de noyer qui en occupait le milieu. Revenait avec son tabac, bourrait vite sa pipe, l'allumait, d'où un grand silence. Mais ce silence ne durait pas, étant suivi presque aussitôt par un violent bruit de dispute. C'est que Thérèse était survenue et s'était mise à le gronder. « Tu sais bien, le médecin !» Mais lui tapait avec sa canne. « Je m'en fous, est-ce que je ne me connais pas mieux qu'eux, ou quoi ? Ces médecins, ce sont tous des ânes !» La salive qui lui coulait de la bouche tombait goutte à goutte sur son pantalon, qui finissait par être mouillé, comme s'il avait plu dessus. La même scène se répétait d'ailleurs, l'instant d'après, à l'occasion d'un verre de vin qu'il voulait boire, tandis que sa femme l'en empêchait, lui, tenant la bouteille, elle, s'efforçant de la lui arracher. Elle lui disait « Ça ne peut plus continuer ainsi. Firmin lui-même en a assez. T'étonne pas s'il s'en va et si je m'en vais, moi aussi. T'étonne pas si tu es tout seul à la maison un de ces jours. Tu tâcheras de t'arranger. » Il ricanait « Allez-vous-en seulement tous. Ce sera un bon débarras. » Thérèse pleurait maintenant, essuyant avec un chiffon le vin répandu sur la table. «
Pourtant, il marchait plus facilement. Il faisait le tour de la chambre avec sa canne. Il arrivait à faire bouger les doigts de sa main gauche. Il ne réussissait pas encore à siffler, mais il s'y appliquait. Il avait fini par faire rentrer le mois de décembre dans l'année, au lieu qu'avant, il n'arrivait pas à faire place aux 12 mois, novembre étant incompressible, ce qui lui causait une grande fatigue de tête. Mais elle avait passé. Il faisait des additions avec un crayon sur une page de carnet. Il notait d'une part ce qui lui était dû et d'autre part ce qu'il devait, faisant ensuite la soustraction et était un peu rassuré en constatant qu'elle bouclait en sa faveur. Il réalisait un peu mieux ce qui lui était arrivé. Il grognait. Cette femme, ne voulait-elle pas faire venir le curé ? Mais moi, je lui ai dit, je ne veux pas, ça porte malheur. Je ne veux pas mourir. Je ne dois pas mourir. Qu'est-ce que tu deviendrais avec tout le bien sur le dos et personne pour s'en charger que toi ? Et puis ce Firmin qui ne vaut pas cher. Je sais bien pourquoi il est là, c'est qu'il croit qu'il va hériter. Il se trompe bien, et toi, femme, tu t'es trompée. La preuve, il levait le bras, il faisait bouger les doigts de sa main, il allongeait la jambe, il se mettait debout, il marchait dans la chambre, et, allant jusqu'à la fenêtre, voilà le beau, pendant qu'il appliquait sa bouche contre les vitres, par les interstices desquels l'air du dehors entrait, froid et vif, avec une bonne odeur de neige. Et les montagnes, alors, sont apparues du haut en bas, avec leurs gorges, les forêts de sapins noirs, toutes égratignées de blanc, leurs étages, leurs 3 étages, leurs 3 ou 5 ou même 6 étages, et, sur celui d'en bas, il y a des villages, sur celui de plus haut, les Méiens. Et au-dessus encore, sont les chalets d'été. Il n'y avait plus ensuite que des choses étincelantes, qui nous renvoyaient le soleil comme font les miroirs, des espèces de petits cristaux à arêtes tranchantes, des dômes qui luisaient comme de l'acier poli, des aiguilles, des tours, avec leurs parois surplombantes, qui faisaient qu'un peu de gris se mêlait à tout ce blanc, puis de vastes terrasses suspendues comme du satin, avec ses cassures, d'où on remonte vers la lumière par dégradations insensibles, et d'où perçaient, droit vers le ciel, des colonnes, mises là, comme pour l'empêcher de crouler. « La preuve, disait-il, c'est que le printemps va venir, c'est que je me tiens debout. Si j'avais seulement ma pipe, la salope, elle me l'a cachée. » Et il se levait de nouveau pour aller chercher sa pipe, ne la trouvait pas, et pas son tabac. Se mettait en colère, tapait avec sa canne, puis, continuant à parler tout seul, « Va seulement. La grande affaire est que je vais bientôt pouvoir me passer de toi. Je suis devenu grand. Je puis me boutonner tout seul. Fais seulement tout ce que tu voudras pour m'embêter, ça ne durera plus bien longtemps. Quand tu arriveras le matin, tu me trouveras habillé. Je te dirai, tu voulais t'en aller, eh bien, tu peux seulement t'en aller. Ça y est, je n'ai plus besoin de personne. J'irai chercher mon tabac, moi-même. J'irai boire un verre, et même 2, si ça me convient. » Les montagnes s'étaient mises à changer de couleur. Et Anselme regardait, parce que ce n'est pas tant l'habitude qu'on regarde les montagnes, mais Anselme avait le temps. Une façon de se distraire dans cette maison terriblement vide et dans le grand silence que la neige semblait avoir établi pour toujours autour de vous. Lui-même, enfermé dans sa chambre, mais s'en évadant déjà en pensée, il regarde la montagne, et comme elle change de couleur, devenant rouge, devenant rose, avec ses gorges pleines de bleu où la nuit se tient embusquée, et en sort comme des fumées, avec ses glaciers devenus comme des champs de trèfles en fleurs, tandis que la plus haute pointe, portée jusqu'au milieu des airs, est comme le coq de cuivre qui est au sommet de l'église, quand le soleil donne dessus. Mais le soleil descend en même temps que la nuit monte. C'est un jeu de bascule. Plus il descend, plus elle monte, gagnant irrésistiblement d'en bas comme le niveau de l'eau d'un bassin d'une fontaine, quelques mètres encore, et où elle a passé, tout meurt. Il n'y a plus rien d'éclairé à présent que les sommités de la chaîne, où brûle encore une petite flamme qu'elle souffle, comme une bougie. Il était dans l'obscurité de la chambre, il n'a pas allumé tout de suite. Il entend Thérèse qui entre. C'est la guérison d'un vieil homme qu'on a cru qui allait mourir. « Mais venez seulement voir, et viens seulement voir, Thérèse. » Elle lui a dit, « Comment est-ce que ça va? Tu n'as qu'à me regarder. Comment veux-tu que je fasse, puisque tu n'as pas allumé? Oh, dit-il, c'est que je pense. Tu penses à quoi? Oh, dit-il, je pense que je vais bientôt pouvoir travailler, et que je pourrai bientôt renvoyer Firmin, faucher, traire, semer, planter. Ta-ta-ta, dit-elle, le médecin a dit qu'il repasserait. « Si tu crois que je vais l'attendre, je ne te laisserai pas sortir. » Il se fâche, une fois de plus, il donne des coups sur le plancher avec sa canne.
Il est quand même un peu plus calme, pense Thérèse. Elle l'excuse.
Il est vrai qu'il doit s'ennuyer. Il n'a pas tellement l'habitude de ne rien faire, et nous autres, c'est tous les jours qu'on se dit si on pouvait se reposer. Mais quand on peut enfin le faire, on voit que le repos est pire encore que la fatigue.
Elle a été faire le café dans la cuisine. Ils ont bu le café ensemble dans la cuisine, comme tous les soirs. Ensuite, elle a voulu aider Anselme à se mettre au lit. Mais voilà qu'il se met à rire.
« Fini tout ça, ma pauvre vieille. Je suis devenu grand garçon. Je me déshabille tout seul. Je t'appellerai quand j'aurai fini. »
Elle arrive avec ses bouteilles, qu'elle emmaillote dans un linge. Elle les introduit dans le lit. Lui se glisse à la place chaude, un vieux et une vieille. Elle a 62 ans, il en a 65. Mais il était encore vert quand le malheur est arrivé, ayant tous ses cheveux qui grisonnaient à peine, maigres, secs, cuits de soleil, se tenant encore bien droit, galant encore avec les filles qu'il rencontrait sur les chemins.
Voilà comme on était, comme on va être de nouveau, pense-t-il,
ayant ramené ses jambes à lui sous les couvertures dans la bonne chaleur du lit, où il pense, se voyant être de nouveau au grand air.
C'est un pays où on monte et où on descend tout le temps. Il y a un arbre, mais on n'a que quelques pas à faire, et on est au-dessus de l'arbre, dont la boule semble poser à même la terre, comme un chou. On monte, on laisse descendre sa maison derrière soi au bout d'un fil. Le village s'aplatit, les gens deviennent tout petits, dans leurs champs. On est dans la domination, tout dressé dans l'espace, avec le vide de tous côtés.
Ah, il fait bon laisser alors venir le vent qui soulève les jupes des femmes, fait claquer derrière vous les pans de votre veste et vous emplit la poitrine sans qu'on ait besoin de le faire entrer.
Quelle heure est-il ? Il y a près du lit, dans un verre où on a mis de l'eau et une mince couche d'huile, le lumignon qui brûle sur un petit flotteur de liège et de fer blanc.
Il regarde la lueur que la flamme projette au plafond comme un autre soleil pâle. Lui, dessous, mais en même temps sous le véritable soleil, dans une chambre et pas dans une chambre, enfermé mais libre quand même, parce qu'il est parti faucher avec sur son derrière l'étui plein d'herbes mouillées où l'on tient loger la pierre à aiguiser la faux. Il pense « j'ai tenu le coup ». Pendant qu'il se laisse descendre au sommeil et qu'il fait encore bouger sa main pour s'assurer qu'elle fonctionne. Cette main gauche, c'est elle qui tient la lame. La droite glisse contre la lame. Il entend le bruit que la pierre fait, qui s'en va au loin, portée par le vent, cependant qu'il est dans son lit, bien tranquille, comme un enfant sage. Mais il y a déjà une autre faux dans la distance qui vous répond. Ce qui fait qu'on peut s'endormir, ce qui fait qu'une nuit passe, puis une nuit, puis encore une nuit. Le médecin est revenu. Il avait dit « Vous pouvez sortir, mais ne brusquez rien. » La neige avait fondu. Anselme avait pris sa canne. Il avait poussé la porte qui donne sur le derrière de la maison, avait descendu le perron aux marches descellées qui branlaient sous le pied. Sa femme, derrière lui, lui criait « Attention !» Il n'était pas encore très ferme sur ses jambes, avec un reste de déséquilibre dont on ne sait pas très bien s'il est dans votre tête ou dans vos jambes. Il se tenait de la main à la rampe de pierre. Il avait planté sur sa tête un vieux chapeau de jonc au bord déchiqueté. Un chapeau de soleil, un vrai chapeau de vigneron. Encore qu'on soit ici bien au-dessus des vignes. Il riait dans l'ombre que son chapeau lui faisait tomber sur la figure jusqu'à la bouche, tout en s'avançant dans la cour où il penchait de droite et de gauche comme un mât de bateau à l'ancre par gros temps.
« Doucement !» lui criait Thérèse.
« N'aie pas peur !» disait-il. « Je suis solide, j'ai tenu le coup. » Le jardin est de l'autre côté de la maison. C'est un bout de terrain pointu qui s'enfonce là, entre deux barrières, faites de gros pieux fichés en terre et de lattes de bois clouées transversalement dessus. Du côté du chemin, à votre gauche, il y a un ruisseau qui coule, bordé de vieux osiers étêtés, pareils à d'énormes têtes bossuées d'où repousse chaque fois une abondante chevelure en désordre. Ils étaient tout enrubannés maintenant, ces osiers, à cause des petites feuilles d'un jaune frais qui venaient de s'ouvrir tout au long des branches. Quant au jardin, on n'y avait pas encore touché. « Mais ça me regarde, » disait Anselme. Et en effet, il avait empoigné ses outils.
Je ne vais pas me lancer tout de suite dans les gros travaux. On trouvera bien quelqu'un pour les fossoyages. « Thérèse, disait-il, tu vas pouvoir te reposer. C'est moi qui ferai ton ouvrage. » Il se servait de son sécateur, il raclait les mauvaises herbes. C'était le mois de mai. Les gens qui circulaient sur le chemin de l'autre côté du ruisseau lui disaient bonjour en passant. On ne les distinguait pas très bien quand ils étaient en mouvement, cachés qu'ils étaient par les osiers, à la verdure qui devenait compacte. Ils paraissaient, disparaissaient, reparaissaient plus loin, mais voilà à présent un homme qui s'arrête. Alors on le voit, qui vous dit « Ça va ?» et Anselme « Ça va ?» Dans le grand soleil revenu, dans le bon gros soleil qui réchauffe et qui vient activer sur votre côté gauche la machine à pomper du cœur. Tout va bien, n'est-ce pas ? Anselme était en train de tailler un pêcher. On l'a appelé depuis sur le chemin. Cette fois, c'était une femme. « Eh bien, disait-on, il y a longtemps, Anselme, mais vous voilà de nouveau tout jeunet. »« Bien sûr, dit-il. Mais qui est-ce ? » Pendant qu'il s'était tourné vers le chemin, mais on ne distinguait pas bien qui était là. « Est-ce toi, Joséphine ? Il me semble que je reconnais ta voix. »« C'est moi. » Et lui, tout joyeux. « Joséphine, alors, montre-toi. »« Moi, disait-il, je n'ose pas. Je suis comme un poireau qu'on a laissé blanchir trop longtemps à la cave. Ce qu'on m'a tenu enfermé. Thérèse, tu comprends, il m'a bien fallu obéir. La charogne, une brave femme quand même. Elle m'a soigné tout l'hiver. Et on s'est chicané. Mais ça ne compte plus, parce que tu vois, c'est fini. J'ai ma pipe. » Il montrait qu'il avait sa pipe. Il la tirait de sa poche en même temps que le paquet de tabac et lui disait « Je vais venir, donne-moi le temps d'allumer. » Il a allumé sa pipe, il a dit « Mais encore une fois, montre-toi pour que je te voie comme il faut. » Alors elle apparut entre deux des osiers reverdis aux fines branches retombantes que l'air faisait bouger comme des lanières de fouet. « Ah, Charette, bien sûr que c'est toi, bien sûr que je me souviens. C'était le vieux temps, seulement peut-être qu'il va revenir. » « Je ne te dégoûte pas trop, c'est vrai. Alors, tout va bien. » Elle avait un fichu rouge, noué autour de la tête. Elle renversait la tête en riant. Alors on voyait le dessous de son menton se gonfler à petits coups comme la gorge d'un pigeon. Toutes les tentations de la terre. Et c'est ainsi qu'Anselme s'est encore rapproché. Il a dit « Donne-moi la main. » Il recommençait. « Tu es toujours belle. Qu'est-ce qu'ils disent, tes galants, Joséphine ? Ce qu'ils disent ?» Elle riait. Elle renversait de nouveau la tête, des joues brunes, une bouche mouillée, des paupières dont on aurait dit qu'elle avait de la peine à les soulever, tellement le poids de ses cils était grand. « Heureusement que tu es venu. Tu me manquais. Je ne l'aurais pas eu sans toi, parce que c'est toi, le vrai soleil. » Il y a eu alors un craquement, comme quand une pièce de bois casse. Il y a eu le bruit de quelque chose qui tombe. Il y a eu un cri de femme bref et aigu comme un coup de sifflet. Un homme est étendu, tout de son long, sur la barrière écrasée, les mains appuyées contre la poitrine, la tête au-dessus du ruisseau. C'est Anselme qui est mort. Ici se termine Accident de Charles Ferdinand Ramus, enregistré par Christiane Jehanne.